Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral, ici à Digne-les-Bains 99.3. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, c'est EU Talk. Aujourd'hui, avec mes camarades, nous allons parler d'un intérêt qu'on a tous en commun. On va vous parler d'agriculture, de bien-être et d'alimentation. Ceci nous a amené à la problématique suivante. La transition agricole et alimentaire, changer l'agriculture pour changer notre société. Je suis aujourd'hui accompagné de trois camarades. Nous réalisons tous les trois un BUT génie biologique ici même à Digne-les-Bains. Nous allons d'abord parler des impacts de l'agriculture sur l'environnement. Et ensuite, nous allons donner des conseils sur une recette simple du terroir français qui nous présentera par Mathéo. Pour cela, nous sommes accompagnés de Thomas, Mathis et Mathéo.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Mais ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants après Les Copains d'abord de Georges Brassens.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Merci d'être toujours là sur Fréquence Mistral. J'ai une première question pour vous, Mathis. La base de l'émission est axée sur la transition agricole. Pourquoi pensez-vous que cette transition est importante ?
Alors cette transition est très importante. Moi-même, étant fils d'agriculteur, je ne suis pas du tout là donc, pour dénigrer les métiers de la terre, mais plutôt de discuter des problèmes qu'il y a actuellement et essayer de faire comprendre que ce sont des métiers très importants, mais qui restent en danger. Je voudrais aussi vous parler donc, des pratiques plus durables qui pourraient apporter beaucoup pour notre société. Le premier problème que je veux soulever, c'est la PAC, donc la politique agricole commune, qui est donc financée par l'Europe. Donc depuis plusieurs années, les agriculteurs sont soutenus par cette PAC, ce qui leur permet, peu importe la récolte, d'avoir un revenu fixe chaque année. Donc ces subventions, elles sont éligibles en fonction des terres de chaque agriculteur. Et donc cela a permis aux agriculteurs de se développer d'un point de vue économique, mais aussi de faire grandir leur exploitation. Cependant, de cette manière, ils ne valorisent pas vraiment leurs produits et donc sont très dépendants du cours des marchés des grossistes. Donc la plupart des agriculteurs vendent de cette manière leurs produits tels quels, sans y rajouter de plus-value, et sont très dépendants du cours du marché. Et vendent donc leurs produits à perte et ne sont pas autonomes. De cette manière, ils ne sont pas assez suffisamment récompensés par leur travail et par leur vente, mais plutôt par les subventions qu'ils touchent par rapport à leurs terres.
Ok, d'accord. On vous entend souvent dire que l'agriculture est souvent polluante, mais que pensez-vous ?
Je pense que l'agriculture pollue assez peu par rapport à d'autres activités économiques, telles que les transports ou l'industrie. Mais je pense que si on prenait plus en compte le sol et la biodiversité, l'agriculture pourrait être un tremplin pour régler la plupart de nos problèmes environnementaux, comme les gaz à effet de serre, la baisse de la biodiversité ou encore la pollution des eaux actuelles. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le sol est une vraie capacité à stocker du carbone. Si on en prend soin, le carbone est facilement stocké dans les sols, et donc cela limite largement les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les gaz carbonés dans l'atmosphère. Aussi, donc, selon le ministère de l'Agriculture, qui a parlé il n'y a pas longtemps, si on augmentait de 2% le taux de matière organique des sols, on compenserait et stockerait tous les gaz à effet de serre que l'on a émis en trop depuis la révolution industrielle. Cependant, ce n'est pas applicable pour tous les types de sols en France, mais il faudrait avoir ce genre de dynamique pour permettre une bonne avancée et stocker de plus en plus de carbone. Et une autre solution existe, comme la plantation des haies ou la remise en place des haies. Par exemple, dans les grandes plaines céréalières comme en Beauce, par exemple, il serait important d'avoir une politique qui permettrait de réimplanter des haies entre ces parcelles, car les haies, donc les arbres, permettent de stocker une grande partie du carbone.
Ok, j'ai compris votre point de vue. Donc, pour vous, il est important que l'agriculture évolue. Et est-ce que tu as des idées et des solutions pour pallier au problème ?
Oui, bien sûr. Pour les éleveurs, en ajoutant on peut ajouter des ateliers de transformation sur les exploitations, des ateliers de transformation en lait, en viande, pour ajouter donc de la valeur ajoutée sur leurs produits. Et de cette manière, les agriculteurs donc permettraient d'avoir une plus grosse marge que s'ils vendaient leurs produits en gros, donc à des grossistes ou à des coop, etc. Pour les clients, donc il s'agirait d'aller directement à la ferme, donc acheter les produits en vente directe, et donc payer les agriculteurs, les éleveurs à leur juste prix. De cette manière, donc les troupeaux seraient moins gros, et donc il y aurait moins de gaz à effet de serre émis par les animaux d'élevage. Et donc pour finir aussi, il y a actuellement des méthodes d'agroécologie qui visent à prendre soin des sols en limitant le travail du sol, donc en limitant les labours, etc. Ou mettre en place des techniques qui visent à faire interagir la biodiversité avec les systèmes agricoles.
D'accord. Je pense qu'on a tous compris votre point de vue. Merci Mathis. Et toi Thomas, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Mathis ?
Oui, je suis totalement d'accord avec Mathis. Je voudrais juste rajouter que toutes les solutions qu'il a proposées auront forcément un impact sur les différentes filières liées à l'agriculture, notamment par rapport à l'industrie agroalimentaire.
Donc, est-ce que vous pensez que les consommateurs peuvent, en choisissant leur façon de consommer, favoriser une transition agricole ?
Alors oui, pour moi, je pense qu'en effet, les consommateurs peuvent favoriser la transition écologique de l'agriculture en choisissant des aliments locaux et de saison. Les consommateurs soutiennent ainsi les agriculteurs locaux et renforcent l'économie locale. Cela favoriserait une agriculture plus résiliente et plus durable au long terme. Les consommateurs peuvent soutenir la transition écologique de l'agriculture à travers leur choix alimentaire de différentes manières selon leurs préférences, comme favoriser l'achat d'aliments biologiques issus d'une agriculture biologique qui a pour but de ne pas utiliser des pesticides chimiques et d'engrais de synthèse, et donc qui réduit l'impact sur l'environnement des aliments, ou encore de privilégier les produits locaux en choisissant des aliments locaux, et donc qui réduit les distances de transport, et qui va favoriser l'économie locale. Ensuite, ils peuvent aussi choisir des aliments de saison qui nécessitent moins d'énergie pour la production, car ils peuvent pousser naturellement dans leur environnement approprié, et ils sont forcément moins chers. Et aussi éviter le gaspillage alimentaire, car aujourd'hui, c'est une vraie problématique de notre société, car on a tendance à trop jeter nos déchets et pas les réutiliser derrière. Et on peut très bien les utiliser en planifiant les repas ou encore en utilisant les restes et en achetant moins et en consommant de meilleure qualité. Et donc chaque petit détail compte. Et ce sont les consommateurs qui vont diriger les différentes productions agricoles, car l'agriculture tend à valoriser leurs attentes. Et aujourd'hui, il y a un gros enjeu au niveau de la sensibilisation des consommateurs à cette transition écologique, car par le biais de leur choix d'alimentation, ils vont favoriser telle ou telle agriculture, plus qui va favoriser soit l'environnement, soit ne va pas la favoriser.
Ok, donc pour vous, changer d'aliment, changer de manière de consommer a des avantages.
Pour moi, un changement des pratiques agricoles entraîne forcément un changement alimentaire. L'alimentation avec des produits de qualité se répercute sur la santé publique, car le but est de limiter les engrais et les pesticides qui sont eux à l'origine de nombreuses maladies, comme des cancers ou des maladies auto-immunes. Mais ce qui est plus important pour moi est que si on produit des aliments moins carencés, on arrêtera d'acheter des compléments alimentaires à foison ou de rajouter des vitamines de synthèse dans certains aliments comme on le fait actuellement, qui complètent pas forcément le manque qu'il y a dans les aliments aujourd'hui. Pour moi, une société donc qui mange bien, c'est une société qui va bien et qui construit un système durable pour l'avenir.
Merci Thomas et Mathis pour ces explications. Nous avons maintenant cerné vos enjeux. Donc après la musique Les Cornichons de Nino Ferré, Mathéo va vous parler d'une recette simple et conviviale pour toute la famille. On se retrouve dans quelques minutes. Bonne écoute à vous.
Les cornichons. parapluie. On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. On est rentré manger à la maison. Le fromage et les boîtes, les confitures et les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons. Le poulet, les biscottes, les œufs et puis les cornichons.
Merci de nous écouter toujours sur Fréquence Mistral. Nous sommes avec Mathéo. Êtes-vous d'accord avec ce que Thomas a dit précédemment? Et pensez-vous que changer de mode de production en bio ou local pourrait, devrait être plus cher ou...
Mais moi, déjà, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Thomas. Je pense que c'est important que les gens prennent conscience que bien manger, c'est aussi bien pour l'environnement, mais aussi pour leur propre santé. Et oui, effectivement, je suis aussi d'accord que... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver économiquement dans des systèmes locaux. Et en fait, on pense souvent que les produits bio et les locaux sont très chers. Donc oui, c'est le cas si on prend des produits souvent transformés. Mais je pense qu'on peut quand même très bien s'en sortir et même faire des économies si on remet des produits locaux dans nos frigos et surtout des recettes avec des produits simples et parfois oubliés. Et pour ça, je pense qu'il faut réouvrir les livres de recettes de nos grands-mères qui proposaient des plats économiques, conviviaux et qui ne sont pas forcément très longs à faire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un plat qui me tient à cœur et que j'aimerais vous présenter. C'est un grand classique de la cuisine française et qui est de moins en moins fait et qui est aussi intéressant au niveau des produits et du coût de revient, et c'est le bœuf bourguignon.
Ah, ben voilà une bonne nouvelle pour nous remonter le moral en cette semaine pluvieuse.
Donc la recette que je vous propose, elle est pour 5 personnes et elle revient environ à un coût de 25-30 €, donc ce qui n'est pas non plus énorme si on rapporte à la personne.
Ouais, c'est sûr.
Pour faire cette recette, la première chose à préparer, c'est une marinade. Donc dans un grand saladier, on vient mettre donc, des morceaux de bœuf coupés en grosses pièces. Donc ça peut être du paleron ou du jarret, qui est parfait parce que c'est une viande un peu grasse et peu coûteuse, donc qui est idéale pour être mijotée. On met ça avec un gros oignon, quelques carottes, donc 4-5, un poireau coupé en grosses sections et quelques gousses d'ail qu'on écrase. Donc il ne faut pas hésiter à faire des gros morceaux parce que sinon il n'y a plus de mâche vu que c'est une cuisson très lente et longue et ça finit en purée, donc ça plutôt, on ne retrouve plus trop les légumes à la fin. On peut ajouter un bouquet garni, du sel et du poivre. Et après on mouille le tout avec une bouteille de vin rouge. Donc il faut un vin rouge qui soit bien corsé avec un côté tannique. Un vin qui a pris le soleil et un vin en général du sud qui est parfait pour cette recette. Ensuite, il faut couvrir tous les légumes et notre préparation avec un peu d'eau pour en rajouter pour que tous les légumes prennent bien le goût et soient bien immergés. Et on laisse environ 3 heures au minimum la marinade prendre. On peut aller jusqu'à 24 heures, voire plus, même 48 heures, je sais que certains le font. Après la marinade, on vient récupérer toute notre préparation et on sépare d'un côté la viande et de l'autre côté les légumes et le jus, donc le vin et l'eau. Aïe.
Ok. Ça donne faim tout ça, hein, en tout cas.
On a envie de manger un bon bœuf bourguignon.
Donc dans une poêle, on fait revenir les morceaux de viande avec de la matière grasse. Et on les fait bien saisir sur toutes les faces pendant 5 minutes. Et une fois que cette étape est faite, on vient mettre un peu de farine dessus, pour donc environ 2 cuillères à soupe, pour que la sauce elle ait du liant. On verse le tout dans notre casserole. Et ce qui est important de faire, et les gens oublient souvent, c'est de mettre un petit peu d'eau dans la poêle qu'on a fait griller, pour récupérer tous les sucres. C'est là qu'il y a le plus de goût et le plus de gourmandise aussi. Et on vient... le verser dans notre préparation avec la viande qu'on a mis. Et puis ensuite, on est sur la fin et on vient laisser mijoter toute notre préparation pendant une heure et demie, 2 heures, voire 2 heures et demie si on a mis des gros morceaux. Et puis après, au bout de 2 heures, on vérifie la cuisson et si c'est bon, il n'y a plus qu'à se régaler.
Bon, ça m'a donné envie d'aller acheter pour faire un bœuf bourguignon ce soir, ça m'a donné faim tout ça. Alors aussi aujourd'hui vous m'avez dit que vous avez un quiz, donc on a accompagné d'un étudiant de l'IUT BUT Génie Biologique de Digne-les-Bains. Donc on va vous poser quelques questions. Donc bonjour à vous.
Bonjour.
Donc avec quel vin on prépare le fameux bœuf bourguignon?
Du coup c'est avec un vin rouge du sud, un peu corsé.
Ah oui, oui, c'est ça, oui.
C'est ça.
C'est délicieux, c'est délicieux. Et avec quel accompagnement vous préférez votre bœuf bourguignon, vous?
C'est-à-dire en accompagnement...
Bon, en accompagnement du bœuf.
Manger avec
Ah bah, du riz...
Ouais, ça peut se faire, ouais.
Des pommes de terre, des fois,
ouais, ça peut se faire.
Des pâtes
ouais.
aussi, ça peut se faire aussi.
Je sais que moi, je fais des pâtes, ouais, c'est pas mal, ouais.
Ouais, c'est pas mal.
Donc, merci à tous. C'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour notre part, ça a été un réel plaisir de partager nos idées. On espère vous refaire une recette simple et conviviale la prochaine fois. Donc, on vous laisse avec le prochain groupe qui vous parlera de la vie étudiante. On se laisse sur La Tourtière de la Boutine Souriante qui parlera de convivialité et de bons petits plats.
Allez, au revoir.
Au revoir.
La France a ses rillettes, son foie gras, ses crêpes Suzette. La Belgique a ses gaufrettes, et Milan son escalope. Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine. L'Espagne a ses mandarines, et l'anglais son marin chops. Mais nous on fait exception, au diable l'importation. À part la patate,
à part la patate,
la patate à part,
la patate à part,
le ragoût de pâte,
le ragoût de pâte,
laisse-moi au poids, qu'est-ce qu'on dévore. Oh. C'est la tour, tour, tour,
la tourtière.
On savoure, voure, vous,
tout entière.
Fête, 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 fête,
ménagère.
Chaud, ça bon, ça bon, ça bon,
la tourtière.
On vante la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises. On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili. La choucroute est allemande, le fromage de Hollande, chop suey garni d'amandes. Tout ça c'est des chinoiseries, mais nous on est des gourmets, on aime les bons mets. À part le gueuleton,
à part le gueuleton,
qui guère dans le thon,
qui guère dans le thon,
ou dans le boudin,
ou dans le boudin.
Il faut manger quand on a faim. Mais la tour, tour, tour,
la tourtière,
on savoure, voure, vous,
tout entière.
Et ça vaut, ça vaut, ça vaut,
à vous plaire.
Chaud, ça bon, ça bon, ça bon,
la
La recette, c'est facile comme une omelette. Vous mettez dans une assiette des machins, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, videz-y toute la salière. Embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. Mais pour faire du flofla, faut pas s'arrêter là. Pour casser le jeûne,
pour casser le jeûne,
il faut le jeûne,
il faut le jeûne.
Le jeûne c'est quoi?
Le jeûne c'est quoi?
Pour relever ce plat de choix. Oh, tout d'abord la danse
de grand-père,
de la part de tante Ron,
c'est Jean-Pierre.
Pour pas faire de peine encore,
au beau-père,
rajouter une couenne de l'or,
la belle-mère.
À Noël, que mange-t-on?
La tourtière.
Au jour de l'an, que mange-t-on?
La tourtière.
Et au roi pour le gueuleton,
la tourtière.
De la part jusqu'au menton, de la tour,
de la tour,
lourde,
lourde,
de la tour, lourde, lourde,
la tourtière.